la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » sur Jet FM et ces temps-ci, je lire un livre de Grégoire Bouillet, « Le syndrome de l'orangerie », publié en septembre dernier par Flammarion, dans le cadre de la rentrée littéraire. Un livre relativement dense, il fait 430 pages. Et pourtant, ce n'est pas forcément le plus dense de cet auteur, Grégoire Bouillet, qui a commencé par des livres très courts, notamment son tout premier, « Rapport sur moi » chez Zalia, qui est un petit livre d'une petite centaine de pages, mais qui ensuite a développé des ouvrages beaucoup plus conséquents, quelques 1000 pages, par exemple, pour le dossier M, livres 1 et 2. Je n'ai pas tout lu de Grégoire Bouillet, loin de là, mais j'ai lu le premier et puis ce nouveau, et il y a plein de correspondances étonnantes. Alors pourquoi je lis ce livre? C'est notamment parce qu'une rencontre publique est prévue début 2025 à la librairie Durance à Nantes. La date n'est pas encore complètement fixée, probablement sur le début du mois de février. Et j'aurai le plaisir de m'entretenir avec lui, si tout va bien. Alors je note des choses dans son écriture foisonnante, parce que c'est une écriture qui est à la fois complètement autobiographique, personnelle, et en même temps très ouverte sur un certain nombre d'éléments, de notions culturelles, politiques, sociales, du monde contemporain. Dans Le syndrome de l'orangerie, il s'agit pour l'auteur, Grégoire Bouillet, de détailler pourquoi il a eu un choc en allant voir Les Nymphéas de Claude Monet à l'orangerie. Et pourquoi ces grands panneaux ont provoqué chez lui quelque chose de profondément ancré dans quelque chose de sombre, de psychanalytique même presque, d'aller rechercher chez lui quelque chose de vraiment très très dur, quelque chose qui est lié à la mort, alors que la plupart des visiteurs ne voient que la belle peinture de Claude Monet. Il va donc, pendant toutes ces pages, essayer de détailler, de comprendre son fameux syndrome de l'orangerie sous forme d'une enquête très drôle et en même temps complètement désespéré. Il y a quelque chose d'un désespoir élégant avec de l'humour et puis quelque chose d'un peu baroque aussi dans l'écriture de Grégoire Bouillet. Il en met des tonnes, il y a beaucoup de parenthèses, il fait plein de digressions, il s'adresse aux lecteurs et aux lectrices, mais passé le premier effet, parfois un peu chargé, ça devient très stimulant, très drôle et puis c'est toujours très intelligent, malin, à la fois pertinent politiquement et puis drôle quand il le faut. Et il n'hésite pas à glisser tout un tas de références, plus ou moins contemporaines, à l'intérieur de son écriture. Alors, la meilleure manière, peut-être, de vous en rendre compte, c'est de vous en lire un vaste extrait, parce que ces phrases, ces paragraphes sont plutôt longs, ou en tout cas s'enchaînent logiquement. On ne peut pas juste en extraire un tout petit bout. Je vous livre quelques pages à partir de la page 196. Il s'agit pour l'auteur, à ce moment-là, d'aller explorer les lieux même de création à Giverny de Claude Monet au début du XXe siècle et notamment le moment où il s'imprègne de ces nymphéas qu'il a cultivés. Donc l'auteur va se rendre à Giverny. C'est un voyage finalement presque touristique. Mais dans le même temps, quelques jours avant, et par le hasard d'un calendrier, il a été envoyé à Cracovie pour des rencontres autour de la littérature et il fait le voyage à Auschwitz-Birkenau. Deux voyages donc à quelques jours d'intervalle, deux visites touristiques très chargées pour l'auteur et qu'il va mettre pendant un très long chapitre en parallèle de manière assez habile et tout à fait étonnante. Voici donc quelques extraits. Il y a des trucs qui interpellent. La réalité réserve toujours des surprises, ce pourquoi on a raison d'aller y voir de près, de se frotter à elle en se rendant compte par soi-même. Par exemple, en plus du car acheminant jusqu'au jardin de Giverny, un petit train routier fait aussi la navette et va pour le petit train routier, soyons fous, puisqu'il faisait beau temps, que c'était la fête à Monet. Une fois chargé ras la gueule de touristes se serrant les uns contre les autres, comme des sardines, et dans la bonne humeur, le petit train s'ébranle et vlan. Des haut-parleurs situés en hauteur se mettent aussitôt à diffuser une petite musique d'ambiance. Vlan. Mais pourquoi, Jésus-Marie-Joseph? Ne pourrait-on nous laisser tranquilles? Faut-il à chaque instant occuper notre temps de cerveau disponible avec des bruits parasites, commerciaux et marketés? Nous couper de nos pensées et de notre environnement pour nous faire croire que nous vivons dans un conte de fées? Faut-il que tout paraisse à chaque instant fun, sauf la volonté de tout rendre fun? sauf la volonté de créer un continuum sonore unifiant tous les espaces publics, de sorte que chacun soit convaincu qu'il vit dans un immense supermarché auquel il n'est pas possible d'échapper, que nul n'ignore qu'aller voir le jardin de Claude Monet, acheter du PQ au supermarché ou des fringues dans une boutique, manger dans un restaurant ou prendre l'ascenseur, c'est tout un. C'est une seule et même expérience sensorielle. Ô rage, ô musique ennemie qui dégoûte de toute musique. J'ai beau être habitué, je n'arrive pas à m'y faire. En plus de me gâcher l'instant présent, cela me grille à chaque fois les neurones. C'est comme un rappel à l'ordre, un mauvais sort que l'on me jette. Alors que c'est sans mon consentement, les femmes me comprendront. Je ne suis pas du tout d'accord pour être ramené en permanence à la réalité que fabrique le monde marchand, sachant que c'est précisément le but et que c'est précisément ce qui m'offusque. Tout ce que je voulais, c'était visiter le jardin de Claude Monet. Inutile de me le vendre. Mais bon, les touristes semblaient heureux. Ils auraient hurlé si j'avais allumé une cigarette, mais qu'on leur pollue le cerveau par les oreilles, pas de souci. Sans une petite musique créant un bruit de fond lancinant, ils se seraient peut-être dit qu'il manquait un truc pour que le film soit parfait. Voici qu'ils se seraient retrouvés dans la réalité, et quelle angoisse tout à coup. Peut-être ces gens se sentent-ils obligés de mettre des violons lorsqu'ils font l'amour ? Si ce n'est pas le cas, ça viendra. La technologie le permettra bientôt. L'innovation technologique n'a pas pour mission d'aider l'humanité, sinon à la marge, mais d'améliorer le faux du monde. Pourquoi croit-on que tant de crédits lui sont alloués ? Enfin bref. Au moins, n'y avait-il pas de musique à Auschwitz-Birkenau ? Ouf ! Pas de petit train non plus. Il n'aurait plus manqué que ça. Il n'aurait plus manqué que Wagner et la chevauchée des Valkyries. En revanche, dans le car conduisant du camp d'Auschwitz au camp de Birkenau, fixé là aussi en hauteur juste au-dessus du conducteur, un écran lumineux faisait défiler les noms des arrêts desservis. Et c'était étrange de lire, scintillant, en grosses lettres rouges, que le terminus était Auschwitz-Birkenau. Moi, comme les autres, nous savions que nous allions à Auschwitz-Birkenau. Nous n'avions pas pris cette navette par hasard, mais de voir afficher notre destination finale, sic, de se dire que c'était là qu'on nous conduisait, et de réaliser qu'on était une bonne centaine d'hommes, de femmes et d'enfants à nous serrer les uns contre les autres, comme des sardines. Bon, cela interpellait. On avait soudain des visions, des images, un doute. La pensée traversait qu'un type en uniforme nous attendait peut-être à l'arrivée pour, sous la garde de soldats tenant en laisse des bergers et des Allemands, procéder à une opération de tri vite fait bien fait. Juger d'un simple coup d'œil, d'un simple signe de la tête qui était apte au travail forcé dans les usines Siemens ou dans le complexe d'IG Farben et crever quelques mois plus tard, 8 mois selon les estimations des nazis eux-mêmes, de faim, d'épuisement, de maladie, de sévices. Ou qui, parce qu'il était vieux, boiteux, mal fichu ou simplement parce que sa gueule déplaisait, devait fissa aller prendre une douche et mourir par le gaz sans même avoir pu profiter de l'hospitalité inimitable du camp. Oh, son personnel, ses services sanitaires, ses bâtiments spéciaux, ses chambres avec douche, son orchestre, même son bordel. Surtout qu'une question se pose. Quelle musique d'ambiance choisir ? Quel tube pour mettre les touristes dans de bonnes dispositions et dans le bain du jardin de Claude Monet ? À Giverny, je dois dire que la musique crachotait les haut-parleurs du petit train m'a surpris. Je ne m'attendais pas à cette musique. Je veux dire pas du tout. Je n'aurais pas parié un zloty sur un tel choix musical. Quelqu'un devine-t-il de quelle musique il s'agit ? Je ne sais pas si les responsables du conditionnement auditif des passagers du petit train de Giverny s'étaient fait plaisir ou s'ils avaient des raisons objectives de choisir cette musique plutôt qu'une autre. Mais ils avaient fait fort. Il s'était défoncé, ou il l'était. Je rappelle que je parle de la musique ambiançant le trajet menant au jardin de Claude Monet, et non, par exemple, du trajet conduisant au camp d'Auschwitz-Birkenau. Je veux que les choses soient claires pour tout le monde, que chacun ait toutes les informations en main. Une idée ? J'offre un Tamagotchi au gagnant. En tout cas, j'aimerais connaître toute la chaîne de décision ayant présidé à ce choix musical, depuis celui ou celle qui en eut l'idée jusqu'à sa validation en haut lieu. J'aurais aimé, petite souris de Gottlieb planquée sous la table, assister au débat, entendre les arguments, connaître les autres choix musicaux envisagés, etc. Si quelqu'un a trouvé, c'est qu'il est déjà allé à Giverny. Pour les autres, un indice. Tout le monde connaît cette musique pour l'avoir entendue un paquet de fois au cinéma, car, renseignement pris, elle apparaît dans pas moins de 35 films, une espèce de record. parmi lesquels, excusez du peu, Autant en emporte le vent, Le dictateur, Monsieur Smith au Sénat, Le mécano de la générale, La conquête de l'Ouest, La vie est belle, Fort bravo, Docteur Follamour, Die Hard 3 et encore Casino Royale, si avec ça on ne trouve pas. Dès les premières mesures, je m'étais d'ailleurs mis à la siffloter, oh la force du soft power hollywoodien, sans pour autant parvenir à l'identifier. Il y a des airs que l'on reconnaît immédiatement à l'oreille, alors que si on nous donne le titre, cela ne nous évoque strictement rien. Sinon, Giverny, et pour moi, cette musique restera à jamais associée au jardin de Claude Monet, oh perfidie. Mais fin du suspense. Le morceau choisi pour égayer le trajet de la gare de Giverny au jardin de Claude Monet et soutenir la jolie voix féminine préalablement enregistrée qui, à mesure que le petit train avançait K1, K1 sur des routes pleines de dodanes, prenait soudain la parole pour annoncer en français puis en anglais qu'on traversait maintenant le centre historique de Vernon. Ah oui, où ça? À gauche ou à droite? Que Giverny possédait des monuments prestigieux? Ah bon, où ça? Mais je veux voir. Et qu'il fallait bien conserver son ticket pour le retour. Des fois, qu'aller visiter le jardin de Claude Monet serait un aller simple, comme à Auschwitz-Birkenau. Oh, l'angoisse. Tout ça, susurré d'une voix mouillée et enjouée, comme pour une publicité pour un parfum. Mais fin du suspense. Ce morceau s'appelle « Roulement de tambour ». Il s'agit, tic-tac, tic-tac, il s'agit de « On est bien assis ». Il s'agit de « When Johnny Comes Marching Home ». Eh oui, c'est dingue, non ? Monet doit se retourner dans sa tombe. Ok, on ne se rend pas bien compte à l'écrit du genre de musique dont il s'agit. C'est le problème avec la littérature, il manque le son. Mais pour ceux que ça intéresse, rendez-vous sur Internet, sur YouTube. Ils y trouveront la version que diffuse les haut-parleurs de la navette de Giverny, exactement la même version avec Jacqueline Schwab au piano et Jonathan Matlin à la flûte. Très important le fifre dans ce morceau. Je le sais parce que j'avais chasamé cette musique en tenant à bout de bras mon téléphone portable en direction du haut-parleur qui se trouvait au-dessus de ma tête. Et quoi ? Je tenais à savoir quel était ce morceau que je connaissais sans savoir qui, que, quoi. Et je n'avais pas été déçu, car « When Johnny Comes Marching Home » est une chanson américaine qui, datant de 1885, célèbre la fin de la guerre de sécession en exaltant le retour sain et sauf du soldat Johnny dans sa famille. Une couronne de laurier placée sur son fond loyal. Hurrah, hurrah. Quel rapport avec le jardin de Monet ? Il faudra que l'on m'explique. J'exige des explications. En attendant, pour aller admirer les splendeurs horticoles du jardin de Giverny, il faut en passer par un air joyeusement martial venu tout droit de la guerre civile américaine. Pour se mettre dans l'ambiance des féeries botaniques de Monet, il faut faire un détour musical par la guerre qui, outre-Atlantique, sous couvert d'abolition de l'esclavage, toujours de grands mots pour dissimuler de gros intérêts, permis au nord industriel de rafler au sud cotonnier sa main-d'œuvre préférée, plus de 600 000 morts tout de même. On le croit ? C'est quoi le message ? Il est vrai que je fais moi-même un détour littéraire par Auschwitz-Birkenau et il ferait beau voir qu'on me reproche maintenant mon syndrome de l'orangerie. Je ne suis pas le seul à associer Monet et Charnier. Raison pour laquelle je m'attarde sur cet épisode qui, je l'avoue, ne présente qu'un intérêt très vaguement universel. N'empêche, pourquoi « When Johnny Comes Marching Home » ? Pourquoi un choix musical aussi incongru ? Et je suis poli. Pourquoi une musique de western ? Était-ce pour flatter la clientèle américaine ? Mais les touristes japonais pourraient protester, eux qui sont bien plus nombreux, à venir à Giverny. Quant aux Français, n'en parlons pas. Au vrai, je ne vois aucune raison valable à ce choix musical. Je n'en trouve aucune, et je n'en reviens pas que des gens aient pu choisir « When Johnny Comes Marching Home » pour agrémenter le trajet jusqu'au jardin de Claude Monet. Pour y penser, il fallait oser. La réalité m'estomaquera toujours. Passe encore qu'il s'agisse d'une musique de film. L'idée n'est-elle pas que le touriste se sente comme au cinéma ? Mais « When Johnny Comes Marching Home », on le croit ? Et pourquoi pas « Il était une fois dans l'ouest de Paris » ou « Pour une poignée de nymphéas » ? N'y a-t-il que moi pour pleurer de rire ? À m'inquiéter de la tournure des événements ? Manquerait plus que John Wayne tienne la caisse à l'entrée du jardin ? Ou que le guide que l'Institut français de Cracovie m'avait réservé pour visiter les camps d'Auschwitz et de Birkenau soit Charlie Chaplin, déguisé en dictateur ? C'était un petit extrait de « Le syndrome de l'orangerie » de Grégoire Bouillet aux éditions Flammarion. Et vous vous doutez maintenant de ce que nous allons écouter pour terminer cette chronique.
Thank you.